L'épisode d'aujourd'hui aborde le sujet de la dépendance. Si vous souffrez d'une dépendance, des solutions existent. Nous avons compilé des ressources pour vous sur notre site web rubinoshoes.com/espoir. Cet épisode vous est présenté par Chaussures Rubino et Café Brossard.
Une personne qu'on aime, qu'on voit se détruire, que ce soit un enfant, que ce soit un parent ou un conjoint, une conjointe, il n'y a pas personne qui aime ça, vivre ça.
Non.
Mais il y a quand même des choses à faire pour aider une personne qui est active dans la consommation. Bonjour, bienvenue à un autre épisode du podcast Grain d'espoir. Aujourd'hui, on aborde la thématique de la famille et de l'entourage en rétablissement, qui est une question assez importante, je crois. Puis, je suis toujours accompagné de mes acolytes, la co-animatrice du podcast. Bonjour, Marie-Pierre.
Salut.
Ça va bien?
Ça va, toi?
Good. Très bien. Et notre expert, le spécialiste, l'intervenant, le merveilleux Jean-Claude Télémac.
Bonjour les amis.
Salut.
Bonjour.
On accueille une personne qui se veut spécialiste au niveau de la famille, je crois. Et en fait, son vrai rôle, c'est être directrice des services thérapeutiques. Et je m'excuse, il fallait que je la lise, celle-là. Elle travaille au pavillon du Nouveau Point de vue, qui est un pavillon qu'on a choisi dans les organismes qu'on a décidé de supporter avec la campagne Grain d'espoir. Bonjour, Judith.
Bonjour, tout le monde.
Allô.
Je suis contente d'être ici. Puis, d'entrée de jeu, moi, j'aimerais vous remercier pour l'initiative de votre projet, parce que, dans le fond, vous allez nous aider à aider des personnes qui ont besoin. Je suis pas une spécialiste de la famille. Moi, je suis une spécialiste de rien. Je suis une généraliste polyvalente.
Je fais
un petit peu de tout. Alors, je travaille évidemment au pavillon depuis une vingtaine d'années. On aide des alcooliques, toxicomanes. On aide aussi les codépendants. On a un programme pour les joueurs. Compulsifs, pathologiques ou excessifs, ça dépend des années. Les scientifiques nous changent le nom un peu. Et puis, on a aussi le secteur adolescent. Secteur adolescent, 14-18 ans. Notre spécificité, c'est qu'on a un programme basé sur le plein air.
Ah.
On a un autobus, les jeunes embarquent le matin, puis on va entrer en relation avec eux par le sport. Patin, ski, vélo et compagnie. Puis on a tout ça, on est équipé pour ça. Donc, évidemment, ça prend des sous pour acheter l'autobus, acheter tout l'équipement. Et puis, on a des jeunes de 14 à 18 ans qui participent pendant 42 jours en interne. Puis, on essaie de leur donner l'espoir d'une vie meilleure, puis qui découvrent aussi des intérêts, des loisirs qui leur permettent de se vivre sans consommer. Parce que nous, notre but, c'est pas de savoir pourquoi tu as consommé, pourquoi tu vas consommer, comment on peut t'aider à te vivre sans consommer. Mm-hmm. Puis c'est un grand défi. Puis si je fais un peu de pouce sur votre autre podcast, où vous parliez des loisirs, plaisirs.
Oui.
Moi, je remarque, là, ça fait longtemps que je suis dans le milieu, j'ai un problème de dépendance aussi, ça fait quelques 24 heures que je me rétablis. Et puis, j'ai remarqué que les gens qui développent des plaisirs, nous, on va dire de substitution, ils sont toujours mieux partis que ceux qui sont là, c'est plate. Parce qu'il y en a qui rechutent à cause de l'ennui,
ouais.
Ils développent pas autre chose. Fait que chez l'adolescent, on essaie de faire ça. Chez l'adulte aussi, au pavillon, on a un gymnase. Puis ça, c'était une... C'était quelque chose, une amélioration notable, là, le gymnase. Avant, c'était un fumoir. Fait que les mentalités ont changé, hein. C'est devenu un beau centre d'entraînement.
Gym,
ouais, c'est un gym, oui, je cherchais le mot. Et puis ça aide beaucoup à développer des loisirs, prendre des marches, faire des mandalas, être capable de faire autre chose que consommer.
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le pavillon du Nouveau Point de vue et sa mission, je les invite à aller voir le site web pavillondunouveaupointdevue.com.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres façons d'entrer en contact avec le pavillon?
Il y a les numéros de téléphone, 450-887-2392.
C'est noté. Donc, on va sauter dans le vif du sujet.
Okay, oui.
Et on a reçu des centaines de questions, Marika, ouais. Je crois.
Alors, je suis tellement contente parce que cet épisode-là, il nous a été demandé. Allez-vous faire un épisode où on va pouvoir vous poser des questions pour les gens dans l'entourage, la famille, les collègues, les amis qui veulent aider un dépendant à s'en sortir. On a reçu des centaines de questions auxquelles j'ai essayé de répondre au mieux de mes capacités. Merci de votre patience puis de nous avoir partagé ces moments-là. Puis c'est quelque chose de tellement personnel, tu sais. Et on a sorti plein de questions. Évidemment qu'il y en a plein qui revenaient, qui sont des questions qui ont été posées à plusieurs reprises. Fait qu'on les lira pas toutes, mais on va en lire certaines. Et la première chose qui revenait dans les témoignages et dans les questions, c'est l'impuissance que les gens ressentent quand ils sont dans l'entourage de quelqu'un qui souffre de dépendance. Puis je pense que c'est pas anormal que ce soit quelque chose qu'on ait dénoté.
Une personne qu'on aime, qu'on voit se détruire, que ce soit un enfant, que ce soit un parent ou un conjoint, une conjointe, il n'y a pas personne qui aime ça, vivre ça.
Non.
L'impuissance, c'est la première étape hein, des fraternités anonymes, toutes substances confondues. C'est aussi la première étape du mouvement Al-Anon. Hein. J'admets mon impuissance face à la personne qui vit le problème. Mais il y a quand même des choses à faire pour aider une personne qui est active dans la consommation. Avant le podcast, on parlait avec Jean-Claude de mettre ses limites. Fait que mettre ses limites, c'est quelque chose de primordial pour pouvoir se préserver. Parce que moi, en béquille, je peux pas pousser un fauteuil, quelqu'un oui. En fauteuil roulant. Fait que il y a quelque chose là-dedans qu'il faut comprendre, mais c'est difficile pour la personne qui vit la problématique parce que elle veut savoir quoi faire.
Ben c'est ça. Les gens là, en général, la question qui est revenue là, c'est comment faire pour aider ma personne qui souffre.
C'est ça.
Ce à quoi vous m'avez répondu, il n'y a rien à faire. Là, j'étais là, mais voyons, non, je ne peux pas. Comment dire, on ne peut pas lui dire ça, voyons.
Il y a quelque chose à faire.
Oui, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, Jean-Claude, toi, tu m'as répondu d'emblée, on ne peut rien faire si la personne n'a pas fait le choix de vouloir changer, quelque chose dans sa vie.
Oui, mais c'est sûr que on n'a pas de phrase magique pour faire que la personne va comprendre, va se voir. Ouais. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, la personne doit admettre qu'elle a un problème.
Mm-hmm.
Tant que ça, c'est pas fait, nous, on peut rien faire. La différence, c'est que on peut l'empêcher de nous tirer avec lui vers le bas pendant sa consommation. Et je pense que c'est beaucoup ça que Judith va nous rappeler, parce qu'on peut pas être aidant si on est en train de descendre parce que la consommation du conjoint, de l'enfant ou du parent nous amène. Tu sais, si nous, on a une perte de maîtrise de notre vie,
ouais. C'est difficile d'aider dans ce temps-là.
On peut pas aider.
On peut préparer une intervention, mais pas une intervention à l'américaine là, avec l'hélicoptère et tout. Là. Quelque chose ouais, de intervention. Humble. Soyons humbles. Alors, on va. Notre trop-plein en tant que personne qui subit la dépendance de l'autre, on va aller le déverser en quelque part.
Mais surtout pas avec
le dépendant. OK? Pour pouvoir être moins émotif au moment où est-ce qu'on va parler à la personne qui vit le problème. Alors, on va se préparer, on va lui dire, écoute, moi, je t'aime beaucoup, puis tu m'inquiètes, t'es en train de te détruire, t'es en train de dépenser l'argent de nos enfants, puis j'ai peur pour leur avenir. On va prendre qu'est-ce qu'on sait qui est important. Parce que moi, quand je reçois des appels au centre, là, les dépendants, la majorité, là, la valeur familiale est importante et ce qui les fait le plus souffrir, c'est qu'à un moment donné, ils ont mis la consommation en haut de la famille, alors qu'ils disent « j'aime mon enfant », mais ils ne font pas ce qu'il faut parce que la consommation est forte. Fait que le codépendant, lui, pourquoi il a aimé cette personne-là? avant d'être dans la déchéance de la consommation, il y en avait des qualités, il y avait des choses qui allaient bien. Il faut revenir à ça. Donc, le mentionner et aussi offrir de l'aide. Offrir de l'aide carrément, laisser traîner des dépliants, des numéros de téléphone. Chez les adolescents aussi, là, moi, je suggère des faux moments. Laisse traîner, aide, drogue, référence. Laisse juste traîner. Juste, parle-en pas tout de suite. Mais si on voit que là, il y a une problématique active,
un débordement,
ben il y a des appels qu'on peut faire. Comme nous, au centre, là, les conjoints, conjointes, les parents vont appeler, mais on va demander de parler à la personne qui vit un problème de dépendance, parce qu'on ne peut pas amener quelqu'un de force.
Malgré tout le bon vouloir que les gens, on va les appeler les codépendants, parce que ceux qui tentent d'être indépendants, malgré tout le bon vouloir que tu peux avoir à essayer de sauver quelqu'un puis de l'aider, tu ne peux pas le faire.
Non.
Il existe des ressources, je crois, pour les codépendants, puis tu as nommé Al-Anon.
Oui. Ouais,
est-ce que tu pourrais nous parler, c'est quoi? Parce que pour les gens qui ne savent pas, moi, j'avais aucune idée qu'il existait des ressources pour les gens qui vivent avec des personnes aux prises avec un trouble de dépendance. C'est quoi Al-Anon? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Puis à quoi ça sert?
Bien, moi, Al-Anon, là, je suis rentrée par Al-Anon pour me rendre compte que j'étais alcoolique.
J'adore cette
histoire. C'est mon conjoint qui avait un problème, puis c'était lui le problème dans toute la patente. S'il ne buvait pas, ça irait bien mieux. Mais il a arrêté de boire, puis ça n'allait pas encore tout à fait comme je voulais. Fait que là, il a fallu que je me regarde. Puis moi, j'allais... lui, il a fait une démarche, puis à Québec. Puis au moment où il a fait sa thérapie, il y avait un groupe à Al-Anon, puis un groupe à Hall. C'était un mercredi. Je ne sais pas pourquoi le mercredi, c'est une journée. Ça a l'air que c'est la bonne journée pour la famille. Parce que chez nous, c'est le mercredi aussi. Donc, mercredi, moi, j'allais au Al-Anon. Puis là, j'entendais parler les messieurs, les madames, puis je me disais, ils parlent un petit peu de moi, eux autres, là. Tu sais, il faut que je sois honnête, là.
Al-Anon, c'est un acronyme pour...
Hein?
Ben, c'est la fraternité sœur de Alcoolique Anonyme, donc AA.
OK, pour les parents.
Pour les parents, conjoints.
Les enfants qui
il y a
vivent,
aussi, ben, pour les enfants, à c'est à la teen. C'est ça. Mais selon, je veux juste le dire, selon les régions où vous habitez, là, on parle du Québec, là, parce qu'on est principalement pour une clientèle québécoise, selon où vous habitez, parce que la fraternité est plus ou moins développée. Donc, ça se peut que vous n'ayez pas la ressource à la teen.
Cependant, j'imagine
sur
que
les
comme
sites Internet, toujours,
sur les sites Internet,
toujours,
on peut trouver les références. Puis aussi, grâce à la pandémie, parce qu'il n'y a pas juste du négatif, il y a des Zooms beaucoup. Donc, ça permet justement à avoir accès à des réunions qu'on n'aurait peut-être pas eu accès.
Puis le phénomène des fraternités, nous, on l'a vécu en tant que dépendants, c'est d'arriver dans un endroit puis d'entendre des gens, à travers leur histoire, raconter une partie de la nôtre. Puis sortir de là en se disant « Ah, oh, fuck, je suis plus tout seul, on est au moins deux.
Ouais. »
Mais c'est le même phénomène que les conjoints, les parents vont vivre en assistant à une réunion de Al-Anon. C'est qu'ils vont entendre d'autres personnes. Donc, ça va normaliser, si je peux dire, ce qu'ils vivent. Parce que la plupart, on en a épluché des questions puis
des témoignages
qu'on a reçus. C'est les mêmes. On fait juste changer le prénom, puis tu sais les spécificités, mais c'est le même désarroi, le même...
La même
souffrance.
On ne sait
pas quoi faire, c'est ça. Puis il y a plein d'amour. Moi, on lisait ça, on disait on avait des frissons à lire ça. Ouais. Il y a beaucoup de souffrance, puis les gens veulent juste aider. Fait que c'est juste ça qu'on veut essayer
puis,
de faire.
Puis il y a ce que Marie-Pierre disait au début de l'impuissance, la part des codépendants. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire ça? Puis s'ils pouvaient aller en thérapie à la place de leur conjoint, ils iraient. Puis il y en a des fois, là, moi, je rêverais d'une place, justement, où il y a les deux en thérapie en même temps, ça serait merveilleux.
C'est exactement ça, parce que là, Judith, si on revient en arrière, tu as connu les fraternités en commençant avec Al-Anon. Là, tu as réalisé que tu avais un problème peut-être de consommation, fait que tu as commencé un processus à ce moment-là. Ça fait une vingtaine d'années, je crois, que tu consommes
32.
Plus. 32 années que tu ne consommes plus d'alcool, mais félicitations.
Merci.
Mais tout ça parce que ton mari avait commencé un processus.
Oui, puis le plus drôle, c'est moi, j'ai fait du Al-Anon, là. Puis lui, il a eu une meilleure attitude face à moi qui continuait de consommer que moi, j'en ai eu à faire du Al-Anon. Parce que moi, dans Al-Anon, j'apprenais des choses, mais j'apprenais que j'étais alcoolique. C'était pas à bonne place. Mais lui, après, il m'a jamais dit « tu bois trop », il m'a jamais dit « t'es pas correct », il m'a jamais... Lui, il avait eu une bonne thérapie, il avait
lui,
bien
il avait
fait ça.
Il avait appris à s'occuper de lui.
Il avait appris c'est à ça. S'occuper de lui, à faire ses meetings. Fait que ce qui aide quand t'as Al-Anon puis des gens AA qui ont un mode de vie, ce qui est aidant là-dedans, c'est qu'on a un langage commun.
C'est ça.
Si moi, je dis lâche prise, à la grâce de Dieu, on va prendre ça, là. Lui, il sait que je veux dire. Mais moi, si je dis ça à quelqu'un, qu'est-ce que je veux dire par là? Hein? Si je dis je lâche prise, là, à quelqu'un qui n'a aucune idée des étapes, il va dire t'es bien lâche. Il va me dire ça.
Oui.
Parce qu'il y en a.
Il va dire t'abandonnes, t'sais. Alors que c'est pas ça du tout. En
ben
fait,
non,
c'est l'inverse.
Je fais ce que j'ai à faire, mais ouais. Après, je peux pas faire plus.
Il y a une question qui revient évidemment dans presque chaque message et c'est comment amener la personne à admettre son problème? Parce que souvent, tantôt là, tu disais j'ai dépensé l'argent de la famille, ta 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 ta. Quand tu confrontes quelqu'un, quand il y a cette espèce de sujet-là qui est tellement tabou, qui est abordé, rapidement, le dépendant, parce que je l'ai été, parce que j'en ai côtoyé, c'est tu capotes, hostie, t'es dans le champ, c'est tout de ta faute, toi, tata, tu fais telle affaire,
si
toi, tu bois plus que moi, puis moi, je n'ai pas de crise de problème, puis tu sais, on est bon pour faire l'évitement du déni. Comment, je vais dire avec amour, on peut réussir à amener la personne à réaliser son problème?
On peut le faire soi-même ou se faire aider pour le faire, d'une part. Et il y a aussi une autre stratégie qui s'appelle la conséquence négative.
Ce qui veut dire?
C'est qu'à un moment donné, exemple, un jeune, tu lui donnes de l'argent, tu sais qu'il va consommer avec. À un moment donné, s'il n'a pas d'argent, il va être un petit peu plus dur. Mais encore là, il y a des parents qui ne lâcheront pas en disant « ouais, mais là, t'as quoi qui vole pour acheter? » Tu sais, ça va jusque-là, hein, dans la tête ouais. Du parent, là. Puis il y a une escalade à un moment donné, là. Mais il y a une limite. Moi, je dis tout le temps, puis on se le disait, Jean-Claude et moi, tantôt, t'as-tu assez souffert?
La fameuse question.
T'as-tu assez souffert?
T'es tanné de souffrir.
T'es-tu tanné?
Cette question-là, elle est commune aux dépendants, mais aux codépendants
ouais.
Aussi.
Oui.
C'est exactement la même chose.
Parce que vous me disiez d'entrée de jeu tantôt, quand on était en train de passer au travers de tous les messages puis faire l'ordre dans lequel on voulait descendre ça, la priorité du codépendant, c'est de mettre ses limites. Est-ce que je me trompe?
Bien, il y a
de
deux choses. Parce que quand on parle de limites, il y a deux points complètement différents. Vas-y. Le premier, le plus difficile, c'est de la nommer. De dire, si tu ne respectes pas telle chose... Ça va, voici la conséquence. Mais après ça, il faut la mettre en force. Et c'est ça, souvent, quand il y a le lien d'amour, de parents, de conjoints, on sait que si on la met en force, là, tu sais, comme tu dis, il va aller voler. Donc, il va avoir un dossier criminel, il y a 16 ans. Toi, tu penses à ça, mais c'est parce qu'en même temps, si tu ne mets pas une limite,
il vivra ça. Jamais la conséquence de ses actes.
Ben, tu sais, moi, je vais prendre un exemple que j'utilise régulièrement. Ouais. Je travaillais pour les maisons Péladeau quand c'est arrivé. J'avais un jeune homme de 21 ans qui est arrivé en thérapie. Le gars, il a perdu son permis de conduire, puis il est en attente d'un procès pour aller en prison parce qu'il a frappé quelqu'un qui est quadriplégique. Mais le gars, là, c'est la première fois de sa vie que quelqu'un il disait non. Parce que lui a toujours fait tout ce qu'il voulait sans avoir aucune conséquence. Donc, s'il n'y a pas eu de conséquence, pourquoi il arrêterait? Puis c'est ça le problème des limites, c'est qu'on a beau dire, faut les nommer, mais faut les appliquer. Tu sais, comme quand on dit, c'est la dernière fois, tu repars trois jours, ça brosse, là, les serrures sont changées, tu rentres plus. Bien, si tu reviens après trois jours, puis ta clé marche, là, dans ta tête, ça fait... Moi, en tout cas, en tant que dépendant, là, moi, ça fait « OK, voici ma nouvelle limite, donc je vais essayer de voir où je peux aller un petit peu plus loin. »
Oui, parce que c'est les dépendants, toujours... on est des crosseurs.
Ben oui.
Fait que c'est sûr qu'on va aller
c'est
plus
ça.
Loin.
Donc, c'est pour ça que le codépendant ou la personne qui subit la dépendance de quelqu'un, si on met une limite, la première règle, c'est de la mettre en force.
De la mettre en pratique.
C'est super intéressant. Puis ça m'amène sur quelque chose que j'ai vécu en thérapie.
il y avait un intervenant qui m'avait dit, est-ce que tu aurais accepté les choses que tu as faites subir à ta conjointe? Dans le fond, si les rôles étaient inversés, que c'était ta conjointe indépendante, est-ce que tu aurais accepté même 5 % 10 % Puis ma réponse, de façon systématique, ça a été ben non. Tu sais, quand tu disparais pendant 2 jours, quand tu réponds plus à ton téléphone, quand tu dis que tu vas être là pour souper, puis finalement, tu arrives à 3 heures du matin, là, vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Moi, j'aurais jamais été capable d'accepter ça. Et pourtant, mon ex-conjointe, elle acceptait ça. Dans le sens qu'il n'y avait pas des grandes conséquences. Fait que dans un certain sens, est-ce que ça l'encourageait la consommation?
Ben oui.
Ben, en tout cas, ça met pas de bâton dans les roues, hein. Ça. Ouais. Ça donne plus ou moins grave, elle dit rien, puis ça passe. Ça,
dans le fond, sans s'en apercevoir comme ça, on encourage.
Ben, c'est qu'on devient complice, je pense. Puis c'est un peu ça aussi qui ajoute une couche, dites-moi si je suis dans l'erreur, au sentiment d'impuissance, de culpabilité des codépendants. C'est de dire, en plus de ne pas être capable de le faire arrêter, j'ai l'impression de cautionner ce qui fait.
Puissance, on ne sait pas quoi faire.
Ouais.
C'est vraiment ça.
Mais tu sais, c'est comme quand on roule sur l'autoroute, là, puis qu'on n'a jamais de ticket. On roule toujours plus haut que la vitesse permise. Puis la journée où on se fait arrêter, on réfléchit un petit peu, hein?
Ouais.
Puis l'autre fois, après, on réfléchit encore un autre petit peu. Puis à un moment donné, on dit, bien, c'est assez. Bien, c'est un peu ça qui se passe des deux côtés. Du côté du parent, du codépendant et du dépendant, c'est qu'à un moment donné, tu dis, c'est assez.
C'est tellement vrai. C'est tellement ça. Et ça nous prend, en tant qu'humain, des conséquences où il faut atteindre comme un genre de bas-fond pour réaliser que là, c'est trop.
Puis ce qui est difficile pour le codépendant, c'est que le bas-fond n'est pas en substance, il est en qualité de ta propre vie.
Ouais.
Tu n'as plus de qualité de vie, tu ne dors pas parce que tu ne sais pas où est-ce qu'il est, tu ne sais pas où est-ce qu'il est parti, tu ne sais pas quand il va rentrer. T'sais, moi, je partais acheter une pinte de lait, j'en revenais une semaine après. Ouais, c'est comme... Donc, même les événements routiniers de la vie sont complètement débalancés pour quelqu'un qui ne consomme pas et qui est présent et qui subit la dépendance.
Le codépendant est 100 % du temps sur le qui-vive. Hein? C'est vraiment ça. C'est quand la prochaine débarque. Ouais. C'est quand la prochaine tornade là, qui va fesser puis qui
c'est
va tout
quoi
défaire.
Qui va arriver, ça va venir de où?
C'est ça. Et donc, d'où l'importance, à un moment donné, que le codépendant recommence à prendre soin de soi.
Oui, tout à fait. Parce que puis c'est même prouvé ça, dans la littérature. Quand on lit, là, il y a Joël Tremblay, un professeur en psychoéducation qui s'est intéressé à cette question-là. Et puis, l'anxiété, dépression, ça fait partie des choses qui se produisent chez le codépendant parce que, justement, il est en attente. Ouais. Si l'autre fait ça, moi, je vais bien. Si l'autre fait pas ça, je vais pas bien. C'est comme un thermomètre, là, tu sais, une éponge, t'absorbes. Alors là, le travail qui est demandé, c'est d'exprimer le malaise en communiquant au dépendant, en lui donnant notre limite, comme Jean-Claude parlait tantôt, et aussi d'aller voir, ça fait combien de temps que je n'ai pas fait une activité pour moi?
Hey.
Ça fait combien de temps que j'ai pas, je ne me suis pas payé peut-être un massage ou que je n'ai pas pris un bain ou que je n'ai pas fait quelque chose qui me fait du bien à moi sans que ce soit en relation avec l'autre personne? C'est quoi mes qualités? C'est quoi mes forces? Je ne sais même plus. À part d'être patiente parce que j'attends, tu sais.
À part te taper sa tête parce que t'es un mauvais parent, t'es une mauvaise blonde.
C'est ça.
Il n'y a rien qui marche dans ce que tu fais. Toutes tes tentatives pour l'aider se solvent en échec. Mmh. Fait que ça finit, là, que t'es de même avec le fouet puis tu te ramasses aussi bas, sinon plus bas que l'autre.
Puis tu consommes pas. T'sais, c'est ça l'affaire. C'est ça qui est le plus difficile parce que toi, tu le vis à jeun quand tu es dans cette situation-là.
Bien, parfois, puis peut-être que d'autres fois aussi.
Ou tu vas devenir. Tu vas changer de fraternité. Ouais. Tu vas lâcher à l'anneau, puis tu vas devenir un membre des Alcooliques Anonymes ou de Narcotiques Anonymes parce que la consommation va. T'sais, c'est ça. C'est que ta vie est débalancée, mais c'est même pas toi qui consommes.
Oui.
Ben, puis il y a aussi, la personne doit prendre soin d'elle. Au début, il y a de la honte, de la culpabilité. Donc, quand on parle de la dégradation de la situation, souvent, le couple dépendant cherche à cacher cacher et dire à l'autre, bon, c'est pas grave, là, il est fatigué, il a dormi tard, il a travaillé tard hier, puis c'est pas vrai du tout. Fait que tu commences à mentir et à manipuler. Tu commences un peu à faire ce que l'autre fait. Fait qu'il y a une espèce de miroir. Il faut s'enlever, se dissocier de ça. Puis là, on respire chacun notre air pour un petit bout. Puis on se rejoint dans un langage commun. Moi, j'aime pas dire les réussites parce qu'il n'y a pas de réussite. C'est des processus, c'est des cheminements. Moi, j'aime mieux parler de ça. Puis culpabilité, bien là, regarde, on voit Angelo, tu es un jumeau.
Oui.
Bon, ton jumeau, il consomme-tu? Non. Bon, fait que, tu sais, tes parents, ils vous ont éduqué à peu près pareil. Fait que, tu sais, la culpabilité, moi, là, je me dis, j'ai vu des gens bien éduqués, mal éduqués, de toutes sortes.
Scolarisés ou non.
Puis ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport avec ça. Là, c'est vraiment là, comment je fais pour me vivre sans cette consommation-là. Moi, je reviens tout le temps à ça, là, parce que c'est ce qu'il faut faire, vivre mes émotions, apprendre à communiquer. Quand tu te gèles puis tu te saoules, là, cortex préfrontal, petit pois vert dans le front, ça diminue ça.
C'est ça.
Pour vrai, en plus, ouais, parce que hein, les gens en thérapie disent au bout d'une semaine, je débrume. Mais tu débrumes pas juste symboliquement. Ton cortex, il prend l'ampleur. Ton jugement, ton raisonnement, il revient. Il y a quelqu'un au deuxième là, quand on appelle. Fait que c'est ça. Ça, cette affaire-là, là, on se gèle. On se gèle. Donc, quand on dégèle, on n'a pas communiqué rien. Fait que moi, je dis tout le temps aux parents, demandez-le aux jeunes, pourquoi tu consommes comme ça?
C'est bon.
De quoi tu as besoin? Une discussion, un langage.
Garder le canal de communication.
Ouais. Parce qu'il y en a qui ne savent pas que leur enfant consomme.
Ouais.
Nous, là, il y a des jeunes qui viennent parce que notre secteur adolescent, c'est subventionné. Hein? C'est ça part des centres de réadaptation en dépendance. Ils font des IGT, des PJ, puis ils nous réfèrent les jeunes. Mais il y a aussi des jeunes de très bonnes familles. Là. OK? Et ces jeunes-là, souvent, la communication, là, il n'a plus, là. C'est brisé. La communication est brisée. Il y a des parents qui ne savent pas. Là, ah, tu consommes tant que ça. Puis aujourd'hui, il y a des speeds. Tu étudies là-dessus jusqu'à temps que tu fasses une dépression. Là, mais au début, le jeune est performant. Il n'est pas sous à terre. Il est performant. Fait que le parent, il s'en rend pas trop compte, là. Tu sais, il travaille, il étudie, tout est beau, de l'euphorie à la dépression.
C'est ça.
Là, c'est quand il commence à plus être capable de...
De maintenir ce rythme-là.
Le contact, s'il est là. Moi, je souhaite aux parents que leurs enfants leur disent, « Hey, j'ai pris une brosse hier, là. » Je souhaite ça. Moi, j'ai une fille, puis ma fille, je me disais, « Elle va-tu être... » Elle va se retenir de son père et de sa mère. Elle va-tu être aussi intense et excessive? Ouais. Puis non, pas du tout. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas exploré la consommation. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été dans des parties. Mais la communication a toujours été là. Puis quand elle a eu besoin et qu'elle me l'a dit, ben moi, sur le coup, j'ai dit, oh non, tabarnache. Mais d'un autre... De toute façon, je me suis dit, hey, ta théorie, mais sans pratique, Judith. Là. Et j'ai accepté ce qu'elle m'a dit. Je l'ai accueilli et ça a fini là, pour continuer dans la surconsommation. C'était de l'exploration, mais chez les jeunes, c'est difficile de faire, est-ce qu'ils explorent ou il y a un problème?
Puis il y a des jeunes qui parlent, il y a des jeunes qui parlent pas. Moi, fait que, comment tu fais pour gauger?
Oui, c'est ça. On parle de jeunes dans l'exemple que tu donnes, mais c'est la même chose pour notre conjoint-conjointe.
Oui,
c'est là qu'il faut faire attention, de dire, c'est les jeunes, c'est comme ça, regarde. Il y a consommation, tu es autour de ça, tu n'es pas forcément codépendant. Tu deviens codépendant quand tu perds la maîtrise de ta vie à travers la consommation d'un autre. C'est ça. Puis au niveau de la communication, je sais que c'est un des prochains points, on disait, faut s'occuper de nous. S'il y a une perte de maîtrise, tout comme l'alcoolique toxicomane, il doit s'occuper de lui, puis ça doit venir de lui. Mm-hmm. Bien, la personne qui est dans l'entourage de ça, s'il est en train de perdre la maîtrise de sa vie, pourquoi c'est important qu'elle s'occupe d'elle? Tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est ça qui va garder la communication. Parce que si tu passes ta vie en étant en colère de tout ce que tu subis, que tu te fais subir ou que ton conjoint te fait subir, tu ne seras pas capable de communiquer adéquatement et de façon aidante.
Puis il y a un effet de surprise aussi, parce que si tu t'occupes de toi, alors que l'autre est habitué que tu laisses la porte débarrée parce qu'il arrive tard, que tu laisses la lumière allumée pour qu'il s'en fâche, pour que les enfants s'en aperçoivent, puis que là, tu y vas dans la protection, puis que là, à un moment donné, tu te dis, qui a trouvé cette ligne? Puis qui s'en fâche une fois, il va voir c'est quoi. Puis là, là, tu affirmes pas à lui. Toi, tu t'affirmes, là, moi, je dors à soir. C'est tout. Bien, il va y avoir des changements. Puisque là, voyons, d'habitude, la porte est débarrée. Voyons, d'habitude, la lumière est allumée. Voyons. Parce que quand on est dans un cycle d'assuétude, de compulsion, de consommation, c'est un tunnel. On voit pas. On n'a pas conscience autour de ce qui se passe. Pas parce qu'on veut pas.
On a des drogues,
c'est fait pour se geler.
Ben, oui, nous autres, c'est juste ça. Nous autres, c'est notre but primordial, c'est qu'on se remet.
Avant qu'on se lance dans les lectures des courriels qu'on a reçus, des messages, j'aimerais qu'on parle des attentes que le codépendant peut avoir. Comment ça s'exprime, cette affaire-là?
Bien, la plus grande attente là, des codépendants, si la personne fait une thérapie, ils ont peur qu'elle reconsomme, puis ils s'attendent à ce que tous les problèmes soient réglés parce que la personne est allée faire une thérapie puis elle ne consomme plus. Il faut qu'il y ait une certaine admission que le problème, oui, c'est vrai, il y a un problème de consommation, la personne fait une thérapie, mais il n'y a pas juste ça. Le problème, des fois, le codépendant, il y en a un problème, là. Problème de contrôle, à outrance, hein? Contrôler l'autre, là, vouloir faire, fais ce que je te dis, puis va, tu sais, puis ça, à la longue, c'est sûr que ça déresponsabilise. Fait que si tu es dans ton cycle d'assuétude, puis que tu es dans ta déresponsabilisation, ça aide pas à prendre ses responsabilités. Fait que ça, c'est un puis l'attente que c'est-tu garanti qu'il ne reconsommera plus ou qu'il ne reconsommera plus
jamais? Je m'oulie. Dites-moi, les que parce qu'on a payé montant X, ça va être réglé, ça n'arrivera plus. Tu sais, c'est...
Ça arrive des... Pas nécessairement des gens qui ont un problème qui appellent pour suivre une thérapie. Ça arrive, par contre, beaucoup des codépendants.
C'est ça. Hein?
Tu sais, du patron, là, le programme d'aide aux employés, qui a un désir sincère que son employé arrête de consommer, mais l'employé n'a pas un désir sincère tout de suite. Mais c'est un début. Parce que moi, je me dis, moi, j'ai étudié au deuxième cycle en toxicomanie. Bon. Et il n'y a pas une approche garantie 100% que si tu fais ça, c'est sûr, ça marche. Par contre, si tu es soumis à un traitement, toujours ben, plus de chances de t'aider que quelqu'un qui n'est pas soumis à un traitement.
Tu l'as entendu au moins une fois.
Grain d'espoir. C'est seulement. On ne peut pas tirer sa carotte.
Non,
pour qu'elle
mais je peux parler de mon expérience parce que oui. Là, j'ai eu le droit à une genre d'intervention de ma famille quand j'ai eu des problèmes il y a quelques années. Et quand j'étais allé en thérapie la première fois, j'ai l'impression de l'avoir faite pour ma famille, pour que tout le monde soit heureux, pour acheter la paix. Puis même si j'avais un désir sincère d'arrêter, même s'il y avait, tu sais, la bonne volonté, trois mois plus tard, je suis retombé dans les mêmes patterns parce qu'en réalité, c'est pas nécessairement d'apprendre à arrêter de consommer, mais plutôt de changer les comportements qui nous amènent à apprendre à vivre avec nos émotions plutôt que les geler, par exemple. Et la deuxième thérapie, cette fois-là, c'est moi qui ai payé la thérapie. Ça n'a pas été ma famille. C'est moi qui voulais y aller. C'est moi qui ai appelé. Est-ce que ça fait une différence, Judith?
Bien, si on regarde l'approche motivationnelle, on part de la motivation qui est là. Il n'y a pas de mauvaise motivation. Mais toi, tu avais besoin probablement d'aller tester, tu n'étais pas sûr parce qu'on t'avait dit des choses que tu n'avais pas encore admis. Mm-hmm. Puis tu aimais ta famille. Ouais. On aime les autres, on va essayer de faire ce qu'ils veulent qu'on fasse pour
toi,
les rendre heureux.
C'est ton affaire, la famille. C'est
que tes valeurs là, les plus chères, on dirait que tu les mets de côté en consommation, puis là, tu réalises des choses. Puis je m'étais dit cette fois-là, ah, c'est sûr, je vais arrêter, là, ça n'a pas d'allure. Puis c'était plus fort que moi, je retournais toujours à la même place. Et la première thérapie, même si ça n'a pas fonctionné, mais c'est quoi fonctionner? On va en parler peut-être. Sauf que ça l'a effectivement
planter cette graine-là du rétablissement, c'est là que j'ai réalisé que j'avais un problème. Avant ça, là, je pensais que c'était tous les gens alentour qui avaient un problème.
Mais
là,
j'ai réalisé que... c'est à cause de lui, puis c'est ça, c'est à cause de ça.
C'est déjà beaucoup, ça, là.
Oui.
Parce qu'il n'y a pas de responsabilités
qui sont inutiles. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, des fois, j'ai fait 6 thérapies. Est-ce qu'il y en a qui font trop de thérapies? Est-ce qu'il y a un chiffre que tu dis, ouais, à 10, c'est trop?
Moi, je peux répondre à ça.
Okay. Mais
moi, là, je dis, il y en a qui ont besoin de faire 3 fois 28 jours, 4 fois 28 jours, parce qu'ils ne veulent pas faire 4 mois ni 2 mois. C'est trop long. Ils vont faire ça par bout. Puis, il y en a d'autres qui vont faire du 6 mois, parce que tout de suite, là, la comparaison entre un et l'autre, je trouve ça difficile, moi, de comparer. Mais c'est sûr que... si tu te brosses les dents, tu as plus de chances de ne pas avoir de caries. Mais ça ne veut pas dire que tu n'en auras pas. Fait que, tu sais, c'est un peu ça par rapport aux thérapies, tu sais. Moi, je dis, tu es mieux d'être en thérapie que d'être dans la rue à consommer. Tu es mieux d'être assis dans un meeting que d'être assis d'un bord. Y a-tu quelque chose de mieux que ça? Bien, dans un monde idéal, personne n'a des problèmes, tu sais. Fait que...
Les enfants. Dans un couple où il y a une personne qui est donc en consommation active, l'autre qui est en codépendance, qui essaye de garder un climat sain. Et moi, je trouve cette question-là tellement pertinente. Alors, je me lance ma question. À part parler de lui avec eux dans le respect, est-ce que je dois faire quelque chose pour préserver leur relation, forcer les rencontres ou je dois laisser faire les choses et qu'ils vont faire leur chemin d'eux-mêmes? Parce que, tu sais, on s'imagine aussi les enfants, 6, 7 ans, assis sur leur, tu sais, avec le petit sac à dos qui attendent leur père, puis que le père, il est en consommation, puis il n'y arrivera pas. Tu sais, la maman a fait quoi?
C'est des cas difficiles, ça. Parce que les enfants, eux, on va répondre, hein? Mais... faudrait parler à la mère, faudrait parler aux enfants. Parce que quand on veut régler une situation, on peut en parler comme ça. Mais si les enfants, pour eux, on est capable de les divertir, papa, il a dû être en retard ou dans le trafic. Parce qu'il y a une certaine, tu sais, il y a un certain discours qu'on doit tenir aux enfants pour lui justifier c'est quoi ça qui se passe. Ou simplement couper le lien.
Ah ouais, hein?
Ça peut être ça, mais moi, je ne m'avance pas à donner une réponse, une réponse stricte, si je ne connais pas la personne.
Moi, ce que je me demandais, est-ce qu'on peut avoir la discussion avec les enfants de dire, écoutez, les enfants, mettons, qui ont 7, 8, 10 ans, papa, il y a un problème de consommation. Est-ce que ça se nomme? Est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on les implique dans cette affaire-là où, justement, on essaie de les protéger de la consommation du parent? On peut-tu faire ça?
Bien, on peut les protéger. Moi, je dis avant 12 ans. T'sais, même Piaget dit à 9 ans, les enfants commencent à avoir une structure qui leur permet d'avoir un jugement sur les choses extérieures. OK? Donc, aujourd'hui, on en parle de toxicomanie. Ils en entendent parler. Ils voient des...
De plus en plus.
Ils voient leurs vedettes en parler.
Des Carey Price, des...
Donc, il y a une ouverture peut-être qui est plus là par rapport à ça. Moi, je verrais, est-ce que les enfants sont démolis à chaque fois que le père n'y arrive pas? Si c'est le cas, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire, de leur expliquer, pas parce que papa ne vous aime pas, parce qu'elle le dit, c'est un bon père. Quand il est là, il est tout là. Mais il n'est pas là souvent parce qu'il y a cette problématique-là. Fait que moi, je préserverais l'idée que votre papa, il vous aime. Votre papa, il a un empêchement. Il ne peut pas être là. Puis de voir jusqu'à quel point, et si les enfants sont déchirés, puis ben là, moi, je dirais, je ferais une coupure, là, parce que ça devient difficile. Mais c'est pas facile de répondre à ça, parce qu'on ne sait pas la maturité des enfants. Mais je continuerais, moi, dans un langage, papa, il est malade.
C'est ça. C'est ce que j'allais dire exactement ça. De le ramener à ça, puis on dirait qu'au niveau de l'accueil des enfants, dès qu'ils vont savoir que c'est malade, ils ne pourront pas être fâchés.
Ouais. Mm-hmm.
Mais le danger, parce que moi, je l'ai lu, ce courriel-là, ben, ce message-là, c'est beaucoup, il ne faut pas protéger le consommateur pour qu'il continue à consommer. Donc, la ligne, elle est mince. Comme Judith disait, chaque cas va être différent. Ça dépend de l'âge des enfants, la maturité et tout. Mais il ne faut surtout pas... Il faut que le parent ait des conséquences dans sa consommation. Ouais. On va revenir à ça. Tu sais, c'est ton enfant, là, si tu as une fin de semaine sur deux puis tu ne te pointes pas, à un moment donné, là, ça se peut que cette fin de semaine-là où tu es supposé de l'avoir puis tu as décidé, bien, il n'est plus disponible. Il a fait d'autres plans parce qu'il est tanné d'avoir la conséquence de t'attendre avec sa petite valise en avant de la porte.
Parce que là, la mère, elle pose la question face aux enfants. Ouais. Moi, je poserais la question autrement. Moi, je dirais à la mère, dites ce que ça fait vivre aux enfants, au père.
Au père, c'est ça, qu'ils soient au courant de la
en
conséquence.
En premier, oui, pour ça. Voir est-ce que moi... lui dire jusqu'à quel point là, elle a de la peine d'avoir les enfants comme ça, que les enfants, ils l'aiment beaucoup, mais que là, ils sont déçus à chaque fois, puis c'est difficile de l'exprimer au père.
Mais c'est parce que s'il n'est pas au courant, pourquoi il changerait? Et c'est ça le maudit problème d'un dépendant.
Mais nous autres, on se dit, c'est bien certain qu'il le sait. Voyons que ses enfants sont assis sur le bord de la porte puis qu'ils l'attendent, mais peut-être que
non. Il faut y dire, il faut y rappeler, il faut que ça fait partie du processus pour qu'il atteigne son bas-fond pour finalement peut-être demander de l'aide. T'sais. Mais si on le couvre à chaque fois qu'il ne vit pas ces choses-là, qu'il est capable de se vendre l'idée, parce qu'il n'est pas con, ça, il ou elle, là, mais en même temps, si ce n'est pas nommé, c'est comme...
Ça existe plus ou moins.
Oui, c'est ça.
Ah, moi, je pense que le plus gros problème, c'est que peu importe qu'est-ce que cette personne a la maladie de la dépendance, là, c'est, même s'il sait que ses enfants l'attendent, la maladie est forte. Fait que, il faut qu'il atteigne vraiment le plus gros des bas-fonds pour réaliser. Puis il y a une chose que tu ne peux pas racheter, les enfants, ils vont pas être jeunes.
Fait que dans le discours
ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'il,
du conjoint, c'est
moi,
ça.
C'est quelque chose que je lui dirais au père dans cette situation-là. C'est ce temps-là, là, tu ne l'auras plus jamais.
Mais on parlait de mettre des limites. Encore là, c'est une occasion pour la mère de mettre des limites en disant au père ce que ça fait vivre, mais en disant, là, moi, je vais prendre une décision si ça continue. Ça. Là, on a une conséquence négative. Hey, je risque de ne plus voir mes enfants. Je risque. Ça va-tu fonctionner?
Mais il faut que ça soit nommé quand même.
Il faut que ça soit nommé.
Il ne faut pas se dire, je le fais pour qu'il change.
Ouais.
On le fait parce que c'est ce qu'il faut faire.
C'est ça.
Puis ça se peut que ça change. Quand tu parlais de s'occuper de soi, parce que c'est vraiment la clé pour particulièrement, on parle de codépendance, l'importance de garder le canal de communication en s'occupant de soi, c'est que je vais être capable d'avoir une conversation avec la personne qui consomme puis de lui dire, écoute, voici la réalité de ce qui s'est passé en fin de semaine. Quand tu fais ce que tu veux, mais voici ce qui s'est passé. Ça, c'est si je m'occupe de moi. Si je ne me suis pas occupé de moi, je vais l'appeler puis je vais dire mon espèce de je ne sais pas quoi. Puis
tu sais,
là, c'est toute ma colère qui va sortir. Ouais. Et là, je peux vous garantir, en tant qu'alcoolique toxicomane, j'ai juste le goût de raccrocher à la ligne, d'appeler le pusher puis de repartir. Le message ne passe pas. C'est pour ça que c'est important qu'on s'occupe de nous puis qu'on soit capable d'agir au lieu de réagir.
Angelo, il y a une autre question qu'on a reçue beaucoup, beaucoup, et que je trouve, encore une fois, vraiment pertinente.
Oui, il y a Ju sur Instagram qui voulait savoir, est-ce qu'elle devrait arrêter de boire, ou du moins arrêter de boire en présence de, j'imagine ici, c'était son conjoint ou une personne qu'elle aime qui est peut-être dans un processus pour arrêter de boire, justement. Est-ce que il faut complètement éliminer ça dans la maison? Est-ce qu'on peut garder des bouteilles? Ça, c'est des questions qui reviennent souvent.
Je dirais, il faut demander à la personne qui a arrêté de consommer, est-ce que ça te dérange? Qu'il y ait de la bière dans le frigidaire, qu'il y ait du vin, qu'il y ait peut-être un bar à la maison. Moi, j'ai vu, il y en a pour qui ça ne les dérangeait pas du tout. Puis il y en a pour qui ça les dérangeait d'ouvrir le frigidaire pour prendre du lait, puis ils voyaient une bière le matin, ça leur rappelait des choses. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas empêcher la personne de vivre, mais on devrait consulter cette personne-là, lui demander. Et si il dit ça dérange, ben s'organiser, peut-être pour avoir un petit frigidaire ou moins accessible. Parce que c'est pas parce qu'il y a de l'alcool que tu vas boire. Si tu es décidé à ne pas consommer, que tu as admis ton impuissance, mais des fois l'occasion, puis la programmation. Si ça fait un mois, deux mois, trois mois que tu n'as pas consommé, c'est pas la même chose peut-être que quand ça fait 20, 30 ans, tu n'as pas la même peut-être vulnérabilité ouais. hein, aux produits. Mais parce qu'il y en a pour qui ça peut déclencher voir une bière dans le frigidaire. Ouais.
Mais moi, j'avais entendu dans un suivi oui. post-cure, parce que, tu sais, moi, je suis italien, puis on gardait des bouteilles, puis tout ça à la maison. Puis la personne qui faisait le suivi post-cure, je vais la nommer, c'était Alexandre. Il avait dit, oui, mais si tu en as à la maison, c'est beaucoup plus facile de retomber parce qu'elle est juste là. Tandis que le processus, c'est si jamais je dois aller à la SAQ, je dois embarquer dans ma voiture, je dois me stationner, ça se peut que je change d'avis avant de retomber. Tu sais, fait qu'on se donne un peu plus de chance. Puis j'ai déjà entendu des gens dans des réunions dire qu'ils ont marché jusqu'au dépanneur pour aller s'acheter une bière. Ils étaient sur une rechute. Là. Tu sais, ils s'en allaient. Puis là, ils se sont assis devant le dépanneur, puis ils ont eu le temps de changer d'idée, ouais. puis d'appeler quelqu'un. Fait que ce délai-là, quand c'est disponible à la maison, là, que le frigidaire est plein, puis que ouais. le bar est plein, c'est un peu plus dangereux, on va
oui.
dire.
Oui, moi, je suis d'accord avec ça. Moi, chez nous, il n'y en a pas d'alcool. Il n'y en avait pas, mais on est deux dépendants. Sure. Sauf que je connais une maman à l'anon, un dépendant, qu'il y a un bar, puis lui, ça ne le dérange pas, mais c'est ça. C'est comme les biscuits, hein? Tu ouais. en as pas, là.
Non, mais c'est vrai, c'est non, exactement c'est ça pour que les gens comprennent.
Tu as le temps de réfléchir aussi. Hein? Tu sais, quand c'est on ça. Dit penser, ouais. méditer, penser, ouais. c'est vrai que tu as le temps d'y penser avant de passer à l'action pour. Hein?
Ben, c'est ça, si les gens se posent la question, là, parce que moi, oui. exemple, je vis avec un dépendant, ben, si je fais une diète là, de 10 jours et que j'ai les armoires remplies de biscuits, ben, ça va être un peu plus difficile. Fait que, tu sais, on demande à la personne, je pense, puis. Une des choses, peut-être au début, quand c'est nouveau, puis la personne est plus sensible, de peut-être éviter d'amener ouais. du vin puis de boire devant l'autre personne, jusqu'à temps, comme aujourd'hui, après presque 4 ans, quand ma blonde prend un verre, ça ne me dérange pas du tout. Mais je ne sais pas où est-ce que j'aurais été quand je venais de commencer. Peut-être que ça aurait été plus difficile à voir ça.
Ouais.
Mais c'est pour ça que c'est important de communiquer puis de se parler des vraies choses. Surtout, mais là, on parle, disons, quelqu'un qui sort de thérapie ou qui commence... une démarche de 28 jours comme il se passe présentement puis qui va peut-être décider ouais. d'arrêter. Tu sais, la réalité quand même, c'est que le dépanneur au coin de chez nous, là, même si on a arrêté de boire, là, il n'a pas fait faillite parce que je ne vois plus. Tu sais, il va en avoir partout. Tu vas aller au restaurant puis ils ouais. vont t'offrir le spécial sur le pichet de bière au Saint-Hubert, là, comme la dernière fois quand tu buvais. Tu sais, ça, ça n'a pas changé. Mm. Tu sais, mais si on peut faciliter, puis si, puis ça, il y a quand même la responsabilité de la personne qui a arrêté de consommer de mais dire, moi, écoute, moi, ça, là, je ne veux pas avoir ça. Tu sais, c'est comme... Fait que c'est pour ça
mais qu'il faut de toute communiquer. Façon, je pense que dans un cas ou dans un autre, moi, si je décide demain matin que je bois quand même, que le monde autour de moi a tout arrêté de boire, moi, je vais y retourner.
Ouais.
Cependant, moi, j'ai le goût de dire encore une fois merci parce que dans mon entourage, moi, j'ai senti un grand support puis un grand mouvement de solidarité. Mon chum a arrêté de boire, mon père a arrêté de boire, mon frère. Tu sais, comme je sens que... Puis je suis convaincue que ça a eu un impact oui, positif sûrement. Sur mon rétablissement. Ça, c'est indéniable dans mon cas. Que ça a été plus facile pour moi d'arrêter parce que j'en ai pas vu, j'en ai pas senti, ça n'existait plus.
Quand j'ai commencé en rétablissement, ma copine, elle m'accompagnait dans des réunions. Mm-hmm. Puis il y a ouais. des réunions qui sont ouvertes, il faut faire attention, il y en a d'autres qui sont fermées, que c'est pour ouais. dépendance seulement. Mais le fait qu'elle m'accompagnait dans une réunion, moi, ça me faisait du bien. Puis elle aussi, elle n'avait aucun problème de dépendance, mais d'assister à la réunion, ça la faisait comprendre c'était quoi. Tu sais, fait que. Est-ce qu'on peut encourager les gens à dire, ben, parce qu'il y a des gens qui demandent qu'est-ce que je pourrais faire. Est-ce que c'est une bonne idée d'accompagner son...
Ben, pourquoi pas? Si la personne, si d'un commun accord, les deux ouais. veulent le faire. Moi, je suis déjà allée au AA avec une de mes amies dans une réunion ouverte, qui n'a pas de problème, mais elle aime les étapes, puis ça l'aide à vivre émotivement.
Oui,
mais
ça rappelle des valeurs humaines, t'sais, des bonnes valeurs.
C'est sûr que si c'est ta conjointe, Angelo, qui dit embarque dans le char, je t'amène à réunion.
Non!
Ça, c'est pas la même chose.
Non, mais si de son plein gré, elle dit moi, ça me tente, mais moi j'ai le goût de dire t'en as parlé au début parce que toi, t'étais dans l'annonce, ton chum était dans AA. Moi, tout mon début début de rétablissement s'est fait en Zoom parce qu'on était en pleine pandémie. Mon chum a fait presque tous les meetings avec moi. D'ailleurs, le meeting de Jean-Claude, c'était comme son meeting. Mais ça a donné des outils à mon chum. Ouais. Mon chum, il sait comment me désamorcer. Il connaît le langage. Je trouve que ça l'a ferré puis ça l'a, c'est ça, outillé pour m'accompagner. Fait que moi, Angelo, il y a plein de monde qui nous ont écrit à qui j'ai dit accompagnez-les dans des réunions.
Il y a quelqu'un qui parle aussi d'aller prendre un gâteau.
Oui,
avec quelque chose.
Oh my God, ça, ben c'est l'enfer, la petite.
Mais quel cadeau on peut leur faire de leur faire vivre ça.
Et by the way, là, je me rappelle quand Marie-Pierre, elle a pris son gâteau, son jeton d'un an, puis son conjoint était assis dans la salle. C'était tellement émouvant puis touchant.
Ça va me faire pleurer.
C'était comme vraiment touchant. Puis tu sais, comme c'était une espèce de beau cadeau que tu peux faire.
Ben
moi, quand j'ai pris mon un an, je l'ai pris au pavillon Pierre Péladeau, puis ma famille sont venues. Mais je ne savais pas qu'ils s'en venaient voir ma remise de jetons. Puis, comme vous pouvez voir, je n'arrête pas de parler, mais je n'ai pas été capable de mettre deux mots. Je ne vais jamais oublier ce moment-là de prendre mon jeton d'un an. Puis la fierté de mes parents, de mon frère était là. Je pense que ma soeur était là. Tu sais, c'est un beau moment à partager en famille.
Oui.
Tu sais, je pense que ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, tu sais, la dépendance... Corrige-moi si je me trompe, mais il me semble à l'université, on disait qu'un dépendant affecte 35 personnes.
Ouais.
C'est encore ça, là.
Ça peut être plus.
Bon. Même plus.
Mais
plus,
en rétablissement, tu affectes 35 personnes aussi. Puis moi, j'appelle ça mon équipe de rétablissement. Ouais. Puis les faire bénéficier, justement, de ce changement de vie qui est positif, puis que. C'est le bonheur, mais ils ont assez subi, là, c'est comme...
Ouais. Une occasion d'avoir de la gratitude.
Ouais. Mais oui, puis de l'exprimer.
Puis de l'exprimer face aux gens qui t'ont supporté, parce qu'il y a des gens qui, des fois, ils flyent, là, ils sont plus dans ton environnement quand t'arrêtes de consommer.
Là, on parle de...
Et puis, ils t'aideront pas à te relever, ils vont te regarder à terre. Fait que ça, c'est quand t'as des gens qui peuvent t'aider, qui peuvent te supporter, qui peuvent... tu peux avoir de la gratitude face à eux.
C'est ça. Moi, quand j'ai commencé, puis je retourne à mon expérience, j'avais besoin que les gens me disent hey, « je suis fier de toi, continue ». Puis j'ai eu ces questions-là. Fait que les gens disaient « qu'est-ce que je peux y dire? Est-ce que je devrais y en parler? » Ben moi, j'avais besoin que les gens dans mon entourage me disent hey, « je suis fier de toi, continue », puis qu'ils m'encouragent à continuer à faire des réunions parce que ça prend du temps, tu sais. Fait que c'est du temps que tu ne prends pas avec ta famille ou avec ta conjointe quand tu t'en vas faire une réunion à 8 heures du soir.
Sauf que quand ta conjointe a dit « hey, t'es beau, t'as l'air bien quand tu reviens de ta réunion », tu fais « ben je vais y retourner la semaine prochaine ». J'enchaîne parce que le temps file. C'est une maman qui nous écrit, elle s'appelle Isabelle, et elle dit que sa fille consomme, et elle poursuit en disant « donc je la laisse vivre sa vie au détriment de la mienne, je ne dors plus, je perds du poids, je tombe en maladie. Je me pitche partout au téléphone, mais je tombe simplement sur du monde qui m'écoute. J'en ai des amis pour m'écouter, je veux quelqu'un qui me dise quoi faire comme parent. » J'ai l'impression qu'il y a ça aussi. Tu sais, on a du monde pour venter, on a un psychologue. Mais là, à un moment donné, quand tu arrives au bout de ressources, là, t'appelles qui? C'est qui va nous dire en tant que parent ou en tant que chum blonde, je fais quoi?
Est-ce qu'elle est mineure?
Sa fille est mineure, oui.
Mineure, OK. Ben, moi, je dis tout le temps, il y a des parents, quand ils ont été au bout de leurs ressources, c'est drastique, mais c'est la DPJ. Hein? J'ai plus la possibilité, moi, de m'occuper de mon enfant, puis je suis rendue que malade. Mais avant de faire ça, il y a des choses. Mais s'ils ont été faites, ces choses-là, moi, je dis comme la communication, pas briser la communication. Même si nos enfants nous disent des choses qu'on, ça ne nous fait pas plaisir d'entendre, puis on n'a pas trop de goût d'entendre ça, il faut l'entendre pour pouvoir, après ça, leur demander, parce que sa fille, y a-t-il un problème sous-jacent à ça, d'anxiété?
Y a-t-il un trauma qui est caché?
Y a-t-il un trauma? Ouais. Si on le sait, on peut intervenir. Quand on le sait pas, on peut pas intervenir. Puis en dernier recours, ben la DPJ, des fois, nous, on a des parents qui ont demandé, là, si tu fais pas une thérapie, là, tu reviendras pas à la maison, tu vas aller à la DPJ parce que c'est une question de santé physique, puis on a peur pour ta sécurité, on a peur. Nous, on a des cas comme ça, puis des fois, ça a un impact positif.
C'est certainement la chose la plus dure à faire en tant que parent.
Mais c'est parce que tu as un enfant, disons celui qui a 16 ans, qui vit ça, mais c'est parce que tu en as peut-être deux, trois autres à la maison, il faut que tu maintiennes la famille. Mais un outil extraordinaire dont on n'a pas parlé, surtout si c'est des ados, c'est qu'à peu près toutes les écoles, que ce soit primaire, ou particulièrement à partir du secondaire 1, il y a des travailleurs sociaux qui font des jobs extraordinaires. Moi, j'en connais plusieurs, j'en ai côtoyé plusieurs. Ils sont phénoménales, ces gens-là, à juste être présents sur les lieux, puis à observer, à voir, puis à être disponible. Puis il faut, en tout cas, moi, c'est ma perception, quand quelqu'un s'assoit devant moi puis qu'il me parle de quelque chose de difficile, là, moi, là, j'ai une petite voix en arrière de moi qui me dit ça, là, c'est la pointe du iceberg, parce que ce qu'il y a en dessous, là, il n'ose même pas me le dire. Donc, c'est là que ça prend beaucoup d'empathie, puis ça prend beaucoup. Il faut le voir, c'est de la souffrance. T'sais. Fait que c'est de donner une opportunité de l'exprimer.
Puis l'arrêt d'agir, des fois, le parent, il a eu, avec tout son amour, tu sais, d'ailleurs, il y a un film, là, c'est Quand l'amour ne suffit plus, c'est la femme de Bill. Hein? Quand l'amour ne suffit plus, ça veut dire que je t'aime, je peux plus.
Je t'ai tout donné.
Ben, il faut déléguer.
Puis c'est la fondatrice de l'annonce, je me souviens. Oui, c'est exactement. C'est ça, quand on dit la femme de Bill,
Bill et
Bob, les fondateurs des Arts.
Ouais.
Une question, c'est Jean-Claude, c'est toi qui l'as reçu.
Je vais juste expliquer, parce que la personne nous dit, vos podcasts sont importants, ma question est la suivante. Après avoir payé plus de 30 000 $ de désintox dans des centres et après sans rechute, nous ne savons plus quoi faire. Je suis la belle-sœur. Puis elle rajoute aussi, mis à part les rencontres hebdomadaires qui ne servent à rien pour sa part. Donc, il y a beaucoup, moi, quand je lis ça, c'est que d'abord, OK, on va répondre à la question. Oui, il y a des centres de désintox qui sont gratuits. Puis, j'aime pas le mot désintox, parce que désintox,
non, c'est ça.
Cliniquement, c'est là, ça veut dire désintoxiquer, c'est juste médical. C'est le bout où la personne va redevenir équilibrée puis qu'elle peut commencer à faire une thérapie. Mais je sais que les gens, souvent, ils disent désintox. Pour eux autres, c'est 28 jours. Mais désintox, on peut aller à l'hôpital. Puis à l'urgence, il y a unités, et particulièrement s'il y a des centres de réadaptation en dépendance, moi je suis en Laurentide, c'est Saint-Jérôme, à l'hôpital, il y a une unité de désintoxication qui est reliée avec le centre de réadaptation en dépendance des Laurentides. Quand on parle de maison de thérapie, que ce soit Pavillon du Nouveau Point de Vue, Pélado,
Jean-Lapointe
ou Le Rucher,
qu'on parraine aussi.
Travaille avec eux aussi. Toutes les thérapies sont bonnes. On en parlait un petit peu avant. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec le savoir qui nous est inculqué, qui nous est montré. Parce que la job commence quand tu sors de thérapie. T'sais? Fait que tu reçoives ton savoir en français, en anglais, au Québec, en Ontario, 28 jours, un mois, six mois, c'est ce que tu vas faire avec ce savoir-là. C'est pour ça que c'est pas... Le rétablissement, ce n'est pas une question de connaissance, c'est une question d'application.
Ouais.
C'est un mode de vie, ce n'est pas un mode de connaissance.
Il y avait un centre que tu avais mentionné.
C'est drogue, aide et référence.
Ah, ça, ce n'est pas un centre, pareil. Non, c'est un service
gouvernemental, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et eux, tu leur dis, moi, je vis dans telle région, j'ai des sous, j'ai pas de sous. Qu'est-ce qui est disponible dans mon coin? Ou tu peux dire, écoute, qu'est-ce qu'il y a au Québec? C'est vraiment un site service, web, c'est un service gouvernemental et c'est vraiment la référence.
On a compilé déjà plusieurs ressources sur notre site, tribunauchoose.com/espoir. Fait que si jamais vous avez comme ça, là, vous posez des questions, y a-t-il d'autres ressources? Parce qu'il y a plein d'autres ressources que les gens connaissent moins, mais il y a des podcasts sur la sobriété ou l'abstinence. Il y a des livres.
CRD.
Centre de réadaptation en dépendance. Puis il y a toujours une autre lettre, donc L pour les Laurentides, MCM, je pense.
Ça, c'est en lien avec les CLSC.
La Naudière.
C'est gouvernemental. Okay. C'est le CIUS qui gère l'hôpital, puis c'est ça, elle, pour la Naudière.
Nous, au pavillon, on a 5 lits. Ça, c'est géré. Nous, on fait affaire avec le CIUS, avec le CRD. Il y a des intervenants qui vont à l'hôpital. Exemple, tu fais une tentative de suicide, tu te ramasses en psychiatrie. C'est là, la plupart du temps, que les gens se ramassent. il y a un intervenant du CRD qui va aller voir comment tu vas. Puis, il y a beaucoup de cas que c'est
Ils sont hébergés chez vous.
Oui. Bien là, ils sont à l'hôpital. Puis, de l'hôpital, nous, on a la désintoxication qui va se faire. Puis après ça, s'ils le veulent, c'est pas obligatoire, mais il y en a beaucoup qui font une thérapie après ça. Parce que comme Jean-Claude l'a dit, la désintoxication, c'est la partie médicale. Mm-hmm. Se sevrer d'une substance, c'est en une semaine. Hein?
Une des désintox les plus dures, le sevrage le plus dangereux, c'est l'alcool. Oui. Les gens pensent que les drogues dures, c'est pire, mais l'alcool, c'est une des plus dangereuses. Fait que si vous buvez 16 bières par jour, essayez pas d'arrêter tout seul à la maison. On voulait juste faire un petit disclaimer.
C'est ça, c'est ça.
Tout à fait. Allez dans un centre qui est spécialisé pour ça, parce qu'il y a différents protocoles, justement, de Librium ou des choses comme ça qu'on va te donner pour pas que ton rythme cardiaque explose. Là.
Oui, puis c'est la pression surtout qui est affectée.
La prochaine question, c'est un jumelé. J'ai mis ça sous la bannière parents-enfants démunis. On a reçu un message d'une maman qui nous raconte que son fils fait à répétition des psychoses toxiques et devient extrêmement violent. De l'autre côté, il y a Dominique qui nous a écrit que ses parents, qui ont 71 et 75 ans, sont dangereux pour eux, sont dangereux pour les autres. Et ils sont allés au bout de leurs ressources, de ce qu'ils étaient capables de faire pour les aider. Qu'est-ce qu'on fait quand on est rendu au bout?
Quand tu ne peux plus, là, hein, t'appelles le 911, parce que s'il y a un danger pour toi, pour la personne qui vit ça, c'est le 911 qu'on doit appeler. À partir de là, est-ce que la personne a été dangereuse momentanément, un événement en particulier, ou est vraiment dangereuse? Bon, on se le cachera pas, là, on n'est pas psychiatre, mais il y a des troubles de santé mentale de plus en plus. Puis quand on intervient en toxicomanie, on intervient sur un individu qui consomme une substance, mais en dessous, il y a beaucoup de choses, hein, au niveau...
santé mentale.
Santé mentale, troubles de la personnalité, bon. Mais la première chose à faire, c'est de cesser de consommer. Tantôt, on parlait ensemble de la P38, que c'est sûr, la P38. Ouais. Bon, j'appelle le 911 et les policiers vont appeler une travailleuse sociale qui peut faire ce signalement-là. Ça veut dire que tu es dangereux pour toi et les autres. On va t'amener en psychiatrie, on va te donner de l'aide, on va peut-être te stabiliser au niveau d'une médication que tu as besoin. On va te donner des ressources que tu ne peux pas te donner en ce moment puis que tes proches ne peuvent pas te donner. Mais le seuil de tolérance à la souffrance, on en a tous un, puis il est différent. Il y en a qui est très, très, très grand, puis d'autres, il est moins grand. Alors là, il faut voir ces personnes-là, ils sont rendus où, parce que il faut pas laisser aller sa santé personnelle, parce que là, on ne pourra plus aider, puis c'est vrai, là.
Puis là, on revient à notre début de podcast à dire, toi, ta limite, elle est où?
Oui,
qu'est-ce que tu es capable d'accepter? Où est-ce que tu arrêtes pour prendre soin de toi? Oui. Je pense que c'est ça qu'on peut leur suggérer à toutes les deux.
Oui.
C'est de dire, malheureusement, peut-être que la meilleure façon que tu as de l'aider en ce moment, c'est de tirer la plug.
Puis moi, ce que j'ai envie de rajouter par rapport à la P38, c'est qu'il y a une limite à l'efficacité de la P38. Tu ne peux pas forcer un être humain à subir un traitement qu'il ne veut pas. Et la P38, la particularité, c'est qu'après deux jours à dessouler, dégriser, le médecin va lui dire le lendemain matin comment ça va. Il dit « Moi, ça va bien, je vais retourner chez nous. » On ne peut pas le forcer à être là, en tout cas pas au Québec. C'est pour ça que là, on fait quoi quand il revient à la maison? Il n'y a rien qu'à changer, il a juste dessoulé. Donc, c'est pour ça que malheureusement, présentement au Québec, il y a probablement une coupure de service, mais il n'y a rien. Donc, la réalité, c'est ça aujourd'hui.
C'est de sauver soi.
C'est de sauver soi, puis de garder le canal de communication ouvert pour que si la personne finalement atteint son bas-fond puis décide de demander de l'aide, mais on pourra l'aider.
Je pense aussi qu'il y a un point important aussi, c'est de continuer de dire, tu sais, que, je ne sais pas comment le dire, mais que tu aimes cette personne-là, que tu vas être là pour elle no matter what.
Ouais.
Je pense que c'est important parce que des fois, on pense que, tu sais, on est tout seul.
Mais écoute, tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que toi, tu as enduré 5 % de ce que tu as fait vivre à l'autre personne? Donc, moi, ça sous-entend, il y en a de l'amour. Sinon, on ne resterait pas là. C'est jamais une question de je l'aime-tu assez, je l'aime-tu pas assez? Probablement, on l'aime trop. Hein?
C'est ça.
Puis on l'aime trop par rapport à nous.
Hé là là, c'est pas simple. On va finir avec une question de Lisa qui nous parle de sa conjointe et elle parle de rechute. Comment accompagner et soutenir l'autre dans la rechute quand nous-mêmes en souffrons beaucoup? Puis là, t'as amené une belle nuance tantôt en parlant de chute et de rechute. C'est quoi la différence entre les deux?
Il y en a qui me diraient « chute, dis pas ça, Judith », mais moi, le dis pareil.
Non, mais je trouve ça quand même intéressant, par exemple.
Parce que, dans le fond, là, une chute, là, un soir, momentanément, tu t'accroches.
Ouais.
OK, mais tu dis non, non, moi, je me réembarque pas là-dedans. Suite, tu retournes chercher ton jeton, même si ça te fait suer un peu, parce qu'il y en a des membres qui ont 15 ans, là, puis ils vont chercher un jeton du nouveau. Là. Ça demande d'humilité, ça, là, mais on lâche pas. T'es mieux de faire ça, on continue, on s'en va par en avant. Mais une rechute, là, tu peux partir pour des mois, même des années. Hein? Fait que, tu sais, ça, c'est... moi, j'ai tout le temps... T'es mieux de te remettre en selle, puis let's go, va t'asseoir dans une salle de meeting. Si t'as besoin de faire une autre démarche, fais une autre démarche. T'es mieux de faire ça que de continuer à consommer, même si c'est difficile. Mais on parle de l'entourage. Fait que ça se peut que ça fait combien de fois que la personne rechute? Ça fait combien de fois que la personne promet des choses? Ça fait combien de fois? Là, on le sait pas dans l'histoire. Donc, on va se ramener à la personne.
Est-ce c'est qu'elle dit, elle la souffre.
Oui.
Ouais, ben, c'est bon, là, on met la limite.
Puis tantôt, on a dit ça. Jusqu'à quel point je veux souffrir pour conserver cette relation-là? Hein? On revient toujours à soi. Puis de lui dire, je t'aime beaucoup, puis de l'encourager. Moi, je me dis, une personne qui est proactive dans son problème, c'est déjà plus encourageant. Hein? Fait que, tu sais, si à chaque fois, il y a quelque chose de plus qu'elle apprend dans son rétablissement, bien, il faut l'encourager.
Faut pas jeter l'éponge, tu sais.
Non, faut pas jeter l'éponge.
Il y a la fameuse phrase, mais... pas avec le miracle qui arrive. Oui. Mais il y a un peu de ça aussi.
Oui, mais il faut se protéger. Puis c'est ça, tu sais, il y a des lignes imaginaires en rétablissement qui sont pas définies. C'est quoi la différence entre faire un kilomètre de plus puis lâcher prise?
C'est quoi la différence?
Je sais pas. Ça va dépendre de chaque situation.
Et j'ai envie de dire quelque chose à la personne qui sort peut-être de thérapie ou qui commence un processus de rétablissement. J'aurais envie de dire à cette personne-là d'être patiente. Puis quand tu sors de thérapie, là, toi, tu as passé 21 jours, 28 jours, tu as appris un paquet de trucs.
Ouais.
Mais les gens à l'extérieur, eux, là, ils n'ont pas vraiment eu de
crash course, là, de formation.
Fait que prenez votre temps, tu sais. Puis... évitez de faire des promesses, puis que j'ai changé, puis que j'ai vu la lumière. Puis juste parce que j'ai vu beaucoup de monde sur un, on appelle ça un pink cloud. Soyez prudent, tu sais. Puis aussi, une autre suggestion que je peux faire, c'est, tu sais, amener la personne, comme on dit tantôt, dans des réunions pour qu'elle connaisse c'est quoi la maladie. Parce que c'est une maladie. Puis il y a plein du monde qui ne savent pas que l'alcoolisme, la dépendance, c'est une maladie.
Mm.
Fait que c'est ça, c'était ça le point que je voulais amener. Comme...
Mais moi, j'ai le goût même de dire, on parle beaucoup du canal de dialogue. Moi, avec mon entourage, là, j'ai parlé, là, j'ai tout dit, j'ai conté des histoires de consommation à mes parents, à mon chum, à mes amis. Moi, j'ai ouvert cette affaire-là, j'ai parlé de ce que je vivais dans les réunions des fraternités anonymes. J'ai comme... fait vraiment une campagne d'éducation autour de moi à dire « ça se peut que je rechute, ça se peut qu'à un moment donné, je vous dise telle affaire. » Tu sais, de vraiment là, essayer de leur donner ces outils-là pour qu'eux m'aident à me protéger moi aussi. Fait que je pense que
c'est ouais, non, c'est ça que je voulais dire dans le fond, c'est que je suis pas guéri, tu sais.
Oui.
J'ai dit ça à ma blonde, « Hey, je suis pas guéri, là. » À chaque jour, c'est comme une journée à la fois... pour qu'ils comprennent que, dans le fond, là, c'est pas une solution qui est ultime. Là. C'est pas permanent.
Ouais. Mais on développe de plus en plus des moyens de se vivre sans fuir par la consommation. C'est qu'on n'est pas moins... Moi, je suis pas moins à risque que n'importe qui. Je sais pas ce qui va m'arriver. Je sais pas ce qui peut m'arriver. T'sais. Mais j'ai développé des outils de me gérer en n'utilisant pas ça. J'ai développé des moyens aussi d'occuper mon temps autre que... Tu sais, il y a beaucoup de choses. C'est comme on a plus de facilité. Ça ne veut pas dire que c'est garanti. Puis tu as raison, Angelo, c'est une maladie...
Puis ça se peut que ta famille ne te fasse pas confiance immédiatement.
C'est vrai.
C'est
ça
possible.
Se peut que tes proches, ils ne te croient pas.
Oui.
Fait que c'est à toi de rebâtir cette confiance-là.
Tu sais, les gens peuvent douter de ce que tu dis, mais
c'est
ils ne peuvent
normal.
Pas douter de ce que tu fais. Fait que quand tu prouves que tu as du temps, puis que ça fonctionne bien, puis ça, là, ça fait la différence. Parce qu'il,
de se faire des promesses, je trouve que c'est se mettre... une pression dont on n'a pas besoin en tant qu'alcoolique toxicomane.
Mon Dieu, on aurait pu en parler pendant des heures et des heures et des heures. C'est tellement un sujet vaste et intéressant. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont écrit. Judith, merci infiniment. Ça a tellement fait du bien. Moi, j'ai appris tellement de choses. J'espère aussi que ça va avoir donné un coup de main aux gens qui nous ont envoyé des messages. Angelou...
Ben écoutez, c'était une conversation très enrichissante. Merci, Judith, d'avoir pris le temps de nous rencontrer.
Bienvenue.
Directrice des services thérapeutiques au pavillon du Nouveau Point de vue. On invite les gens à aller voir leur site web. Est-ce qu'on peut des fois faire aussi des dons directs? Est-ce que vous cherchez des bénévoles? Est-ce qu'il y a des choses?
Bénévoles, là...
Avec la COVID, c'est difficile.
C'est difficile, mais oui, on est toujours ouvert à avoir de l'argent.
Parce que moi, je suis sûr qu'il y a des gens autour de la table qui sont prêts tous à aller faire un tour un jour pour parler avec vos jeunes.
Bien, absolument.
Quand ça sera permis, nous, on est ouverts. Fait que merci d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici pour nous parler. C'est super apprécié. Nous, quand les gens, là, ils ont des questions, là, ils ont été écouter notre vidéo sur YouTube, puis que vous écrivez dans les commentaires, souvent Jean-Claude va répondre. On va essayer toujours de répondre à vos questions du mieux qu'on peut. Puis en même temps, il existe des ressources, puis on les a compilées sur rubinoshoes.com/espoir, le café Grain d'espoir
qui est
toujours en vente. Puis ça l'aide à payer des thérapies justement aux gens qui vont au Nouveau Point de vue.
Oui, merci encore. Hein? Je l'ai dit au début, mais je reviens parce qu'on a besoin d'aide pour aider les personnes qui ont besoin d'aide. Et l'argent, on ne peut pas...
On ne se le cachera pas, une thérapie, ça coûte cher.
Oui, oui coûte puis cher. Quand tu consommes, ce n'est pas là où tu ramasses le plus d'argent.
Fait que c'était très clair. On se dit à la prochaine.
Merci,
petit mot de la fin.
Merci, vos amis.
Merci au nom du pavillon du Nouveau Point de vue pour Grain d'espoir. Nous, on va continuer de semer l'espoir d'une vie meilleure.
Bravo.
Est-ce qu'on peut dire aussi aux gens de... Hey, il y a une autre solution, c'est de partager le podcast.
Oui.
Mettez un petit like, un petit commentaire.
Absolument.
Envoyez ça à une personne qui souffre peut-être.
Oui,
c'est une bonne idée.
Oui, c'est une bonne idée.
Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine. It's a wrap.